2050.
Tu penses que ce serait bien,
2050, toi? #2050 le podcast, c'est votre rendez-vous. Chaque semaine, une rencontre, un regard, une vision tournée vers l'avenir. En plus de 20 minutes, mais en moins de 30, c'est 2050 qui se dessine au fil d'une discussion. #2050, c'est parti. Bonjour Audrey.
Bonjour Rebecca.
Je suis ravie de te rencontrer pour cet épisode de #2050, le podcast. Avant que nous en rentrions dans le vif du sujet, j'aimerais que tu me présentes le lieu que tu as choisi pour notre conversation.
Ouais, alors avec plaisir, j'ai choisi Cowork Crèche. C'est un endroit que j'affectionne particulièrement parce que c'est un endroit qui a été pensé pour accueillir les parents avec leurs jeunes enfants, les parents freelance et entrepreneurs en général. Et du coup, quand j'avais, mon fils avait de 6 mois à 1 an, bah, j'ai profité de l'espace pour qu'il soit gardé, que je puisse rester avec lui tout en menant mon activité. Et c'est un lieu super beau, très lumineux, avec des couleurs que j'adore, pastel, voilà, et qui a été fondé et qui est mené par une fille géniale. Donc voilà,
d'accord.
C'est le lieu idéal pour parler des relations humaines.
Ok, donc voilà, le thème est dévoilé. Donc je précise, si on est à Paris, dans le
11e arrondissement. Voilà, avec Drue Rollin, ouais.
Alors tu l'as dit, le rapport à l'autre, les relations, c'est le sujet que tu as envie de dérouler jusqu'en 2050.
Ouais.
Mais justement, c'est aussi ça fait sens avec ton métier. Tu es donc indépendante et tu es conseil en stratégie éditoriale. Donc est-ce que tu peux m'expliquer en quelques mots en quoi consiste ton quotidien?
Ouais, alors en fait, j'accompagne des entreprises sur à déployer leur communication sur différents médias.
Mmh.
Et donc ça commence par toujours poser un peu leur activité, savoir ce qu'ils font, pourquoi ils le font et à qui ils s'adressent.
Mmh.
Et puis, à partir de là, on s'occupe des besoins des autres en face,
ouais.
En fait, toujours. Et donc, ma façon de travailler, elle est ainsi, c'est qu'on a quelque chose à vendre, par exemple, et puis on se dit, qu'est-ce que je vais pouvoir combler comme besoin de l'autre avec mon produit.
D'accord.
Et c'est comme ça qu'on arrive à dérouler toute la stratégie après.
Ok, très bien. Alors, la relation à l'autre. D'habitude, je présente un petit objet en fin de conversation, mais là, j'ai envie de te le présenter tout de suite. Je te le remets, je te laisse regarder et nous dire ce dont il s'agit.
C'est un miroir.
Un petit miroir de poche.
Un miroir de poche.
J'ai choisi cet objet parce que pour parler de la relation à l'autre, tout de suite, ça m'a interpellée. Je me suis dit, est-ce que, avant finalement d'être en capacité de construire une relation à l'autre, on n'a pas chacun à repenser ou à travailler notre rapport à nous-mêmes, voilà, être capable de se regarder dans le miroir, comprendre, savoir qui l'on est.
Évidemment, évidemment, c'est la base en fait de la relation à l'autre, c'est le rapport à soi, quoi.
Mm-hmm.
Tant qu'on est dans ses blessures, dans son histoire, on réagit avec ce prisme et on n'est pas disponible pour être ouvert à l'autre, en fait.
Ouais.
Donc, être en relation. Du coup, tout part de là. La relation, le rapport à l'autre part du rapport à soi et de ce qu'on a à travailler, de ce dont on a à se libérer pour pouvoir être disponible dans le rapport à l'autre.
Ouais. Alors j'aime bien cette expression dont on a les choses dont on a à se libérer, parce que j'ai aussi le sentiment qu'aujourd'hui, en 2017, la société rend difficile aussi le rapport à soi, parce qu'on est sous un flux de publicité dans les magazines, notamment pour nous les femmes, où on nous intime, où on nous enjoint, où on montre une femme qui n'est pas celle que l'on est forcément. Donc parfois on peut être perdu et ne plus savoir qu'est-ce que l'on doit être, est-ce qu'on doit être ce que la société nous propose, ou comment s'affirmer.
Ouais, absolument. Ça demande. C'est vrai qu'on est sursollicité, on est tout le temps poussé à être à l'extérieur de soi. Et l'idée là, et d'ailleurs ce qu'on vit, cette transition qu'on est en train de vivre, c'est justement le retour à l'intérieur. Alors avec aussi le contre-coup, c'est-à-dire qu'on est plus tourné vers soi à l'intérieur, mais je pense que c'est une phase hyper nécessaire pour qu'on puisse s'ouvrir ensuite. Donc c'est à nous individuellement de se protéger un peu de l'extérieur et de surtout avancer avec toujours son objectif, quoi. Mm-hmm. Voilà, ne pas se laisser influencer par l'extérieur, mais tout dépend de ce qu'on trimballe, en fait.
C'est vrai.
Des fois, c'est difficile de ne pas se laisser influencer. Ouais. Quoi.
Alors justement, dans la relation à l'autre, quels sont les constats que tu peux un peu tirer aujourd'hui? On est en 2017, encore au début du 21e siècle.
Alors bon, c'est difficile d'avoir une vision globale et de parler pour tout le monde parce que, évidemment, je suis dans ma bulle, même sur les réseaux sociaux qui sont... un peu l'image fois mille du rapport à l'autre qui s'est développé à travers ces réseaux depuis 10 ans, on a une image qui est biaisée puisqu'on est dans nos bulles de filtrage.
Donc de toute façon, dans chaque conversation, c'est vraiment un regard singulier.
Voilà, ouais. D'accord. Et donc, moi, ce que je constate, c'est qu'on est... on est dans un rapport à l'autre qui est une explication en permanence du rapport à soi. Mmh. C'est un peu, je ne sais pas si c'est bien dit, mais en tout cas, j'ai l'impression que pendant qu'on est avec l'autre, on n'est pas vraiment avec l'autre, on est toujours en train de se dire qu'est-ce qu'il va penser, est-ce que là je suis bien, alors quand on ne pense pas déjà au physique, ensuite on pense à est-ce que j'ai bien dit cette phrase, on est un petit peu perturbé par toutes ces pensées qui font qu'on n'est pas hyper serein, justement parce qu'on est complètement entouré de toute cette com qui nous fatigue, quoi. Mais en même temps, il y a toujours un contre-coup. Enfin, il y a toujours, quand il y a un courant très fort, il y a toujours son inverse qui est en train se développer fortement. Toute cette ère justement du rapport humain, de on se déconnecte, de on prend le temps, de la slow life. Et aussi du collaboratif, qui est hyper puissant là depuis les 10 dernières années, où justement, ça c'est symptomatique, c'est-à-dire qu'on est à la fois on vit un ego trip de malade, et en même temps, on a envie de collaborer, on a des activités ensemble, de co-réparation, de co-living, de co-working, de co-éducation, enfin bref, on est dans toute cette tendance-là très forte qui fait écho à l'ego trip qui est en face. Quoi.
Alors, la relation à l'autre aussi, aujourd'hui, elle est aussi peut-être vampirisée, je ne sais pas si c'est le bon terme, par aussi le marketing qui soit celui des marques, mais aussi on parle du personal branding. Et donc voilà, c'est aussi une tension entre cette société de la consommation où finalement on devient quasiment son propre produit, les marques qui entrent qui essayent de créer de la communauté, mais donc une relation qui est finalement marketée, et tu sens que ce retour à l'humain est en train de justement, peut-être pas prendre le dessus, mais en tout cas de trouver sa place et d'inverser le processus.
Ah, mais complètement, je suis d'accord avec toi. C'est, en fait, les réseaux sociaux, moi j'en ai une vision, je m'efforce d'en avoir une vision très optimiste, même si y a plein de travers, que je suis pas dans le monde des bisounours, mais voilà, c'est mon métier, j'aime faire ça, j'ai choisi de travailler là-dessus. Et donc, je m'efforce de montrer que les réseaux sociaux ont créé une autre forme de relation. Ils n'ont pas, pour moi, vampirisé les relations humaines, parce qu'on se rend compte que finalement, grâce aux réseaux sociaux, on peut être en contact aujourd'hui avec beaucoup plus de personnes qu'auparavant. Alors, certains diront que oui, mais les personnes qu'on n'aurait pas appelées dans les années 90, c'est des personnes finalement dont on n'a pas besoin dans son entourage. Mais moi, je trouve que ce n'est pas vrai, parce que on se retrouve liés... tu sais, avec beaucoup moins de degrés de séparation, à un peu tout le monde, on peut toucher tout le monde, on peut parler à n'importe qui, et finalement, ça, c'est super dans les réseaux sociaux. Enfin, moi, je trouve que c'est...
Voilà, je suis d'accord avec toi.
C'est hyper génial, quoi. On peut parler à n'importe quelle personne, qu'il soit célèbre ou pas, haut placé ou pas, par rapport à nous, et il n'y a plus ce rapport de hiérarchie très fort qu'il y avait dans la société. Et ça, pour moi, c'est le premier pas vers une société plus égalitaire, plus... plus humaine, malgré tout ce qu'on peut dire, en fait. Alors après, il y a plein de travers, mais je pense qu'il y a toujours un sursaut humain. Tu vois, alors on tombe dans les travers, et puis un coup on se rend compte et on se dit je vais revenir à, tu vois, voilà, au je vais vrai, au vrai, donc je vais créer des événements, je vais rencontrer les gens pour de vrai, je vais voilà. Et il y a finalement, ça nous permet de plus se voir, plus être en lien, plus les technos font ça, quoi.
Ouais. Alors, on est en 2017, si on regarde 33 ans plus tard, en 2050, comment tu imagines les choses? Est-ce que ce double mouvement, justement ces deux chemins, l'un sera devenu plus grand, celui du vrai, de la relation humaine? Comment, à quoi
Je pense que là, on vit vraiment une ouverture de conscience en ce moment qui est très forte. Après, il y aura, il y aura des gens qui, sûrement une partie qui fera un saut de conscience et d'autres non. Et donc, je pense que ce mouvement va atteindre une masse critique qui va permettre de s'imposer, en fait. Et donc, cette ouverture de conscience va faire qu'on aura beaucoup plus, un peu en fait, ma vision de 2050, bon, c'est plus peut-être un souhait qu'une vision, c'est que, tu vois, elle se situera, il y aura d'un côté Matrix et d'un autre côté Avatar. Tu vois, en gros, c'est ça. Hein. Mm-hmm. C'est-à-dire que soit tu es complètement bouffé par tes différents niveaux de réalité, etc. Soit tu te rends compte, enfin, ou les deux en même temps, en fait, j'en sais rien, mais Avatar, c'est vraiment la vision, pour moi, c'est un film hyper, hyper visionnaire. C'est-à-dire que c'est cette conscience d'être relié à la Terre et à tous entre nous, de faire qu'un, en fait, elle est là de plus en plus. Mm-hmm. Et je pense que c'est ça qui va permettre la survie de l'humanité, quoi, parce que sinon on est voué à disparaître derrière les robots qui sont 1000 fois plus intelligents que nous, voire 100 000 fois plus.
Mais alors oui, justement, parce que l'intelligence artificielle, on en parle beaucoup aujourd'hui, on promet beaucoup de choses. Aujourd'hui, on voit des avancées expérimentales, mais aussi des choses très concrètes qui se développent. En 2050, justement, comment on pourra faire la part des choses, parce que l'intelligence artificielle sera sans doute largement démocratisée.
Je pense qu'on aura du recul, justement. Là, c'est comme maintenant, c'est-à-dire que là, on a passé 10 ans depuis les années 2000 à être dans la découverte et donc l'absorption de plein d'infos. On était hyper émerveillés par les réseaux. Vite, je m'inscris, je fais ça, j'ai 40 000 mots de passe, 12 codes pour rentrer chez moi, la carte bleue. Enfin, voilà, on profite de tout parce qu'on est dans la découverte, comme des enfants un peu. Et puis là, on est dans la phase de un peu retour à bon, bah ça y est, j'ai vu les limites du système, tout ça en fait gouverne ma vie. Il y a des youtubeuses, j'ai vu, qui font des burn-out, qui font des vidéos où elles disent désolé de vous avoir menti, je me suis perdue dans ce système, enfin bon, voilà. Donc on assiste un peu à un truc la descente, tu sais, de la gueule de bois, quoi. Le lendemain de cuite, tu vois, peu. Et je pense qu'on est un peu en lendemain de cuite, là, en 2017. Et donc, on est en train de... Toutes les tendances et toutes les recherches vont dans le sens du retour à l'humain. Que ce soit au travail, dans les relations parents-enfants, l'éducation, dans les relations amicales, on est dans... nos besoins humains, se voir, se rencontrer, se tenir dans les bras, le free hug, le machin. Et voilà. Et donc, là, avec l'intelligence artificielle, qui est là déjà, mais qui n'est pas encore dans les foyers, vraiment, au sens robot qui fait à notre place, je pense qu'il y aura une nouvelle phase s'abreuve de ça, de techno. Et puis, je pense qu'en 2050, pourquoi pas être à nouveau dans la réalisation on se réveille. Et puis, c'est très bien tout ça, on peut les utiliser, mais ne nous laissons pas bouffer par tout ça. Et puis, revenons à nous.
Et à la fois, quelque chose qui m'interpelle aussi dans cette tendance du retour à soi, au bien-être, l'éloge de la lenteur, etc. Est-ce que aussi on n'a pas le risque que ça devienne un peu là aussi une bulle, justement que ça soit une tendance, parce que ce soit les livres de développement personnel, l'entreprise libérée, mythe ou réalité, on pourrait dire encore aujourd'hui, là aussi ça devient une tendance quasiment marketée, ou est-ce que en 2050 ça sera vraiment quelque chose, une tendance sociale qui fera que, je sais pas, dans son immeuble, dans son quartier, on aura retrouvé l'esprit de village, où on sera dans la rencontre humaine.
Mais on l'est, en fait, on l'est déjà dans la rencontre humaine. Hein. Il y a plein de trucs, la fête des voisins, les trucs de réseau, les co-réparations, voilà, on vit ensemble, on a de plus en plus envie de ça. Mais ce que je voulais dire, c'est que, en fait, s'il y a une tendance du retour à soi, c'est parce qu'il y a un besoin. Sinon, ça se vendrait pas. Ouais. Et il y a un vrai besoin, donc y a, tout le monde s'engouffre dans cette brèche de conseils pour revenir à soi. Mais c'est une phase indispensable pour être à nouveau dans le rapport à l'autre. Ouais. C'est que tant qu'on sera dans nos blessures et qu'on réagira à travers elles, qu'on n'aura pas fait le deuil de notre enfance et aussi des générations précédentes qu'on porte et des guerres et des machins qu'on a vécu, on porte tout ça quoi. Et tant qu'on n'aura pas su comment dépasser ça en l'espace d'une vie, eh bien on sera toujours dans la recherche du retour à soi. Donc le retour à soi, cette tendance, elle est due au fait qu'on a besoin de d'abord être bien avec soi pour être bien avec l'autre, ce que tu disais au début, quoi. Et c'est indispensable. Et d'ailleurs, toi qui as des enfants comme moi, tu sais très bien que quand on devient parent, c'est le moment de revisiter sur sa propre enfance, de savoir ce qu'on veut refaire ou pas, ce à quoi on va s'opposer, de comprendre... dans quoi on était, quelles relations on avait eues avec nos parents, des trucs qu'on avait complètement oubliés, quoi, en fait, mis de côté. Et puis là, moi, en tout cas, ça m'a fait ça. Quand j'ai eu ma fille, d'un coup, je me voyais reproduire des trucs que j'avais pas envie. Puis j'ai vu que d'autres trucs qui m'avaient touchée, j'avais envie de les mettre en œuvre. Et j'ai lu plein de bouquins, du coup, sur la parentalité bienveillante. Et qui amène au retour à soi, en fait, se replonger dans ses blessures de l'enfance et à ne pas les reproduire et à savoir comment les surmonter. Donc, en fait, tu vois, c'est ça, quoi.
Alors, justement, les générations futures, nos enfants, ils auront la trentaine, la quarantaine d'années dans 2050. Ce
sera nous, quoi.
Voilà. Est-ce que, à ton avis, parce qu'aujourd'hui, là, je suis venue à Paris, donc dans le métro, il y a beaucoup de monde avec des casques. D'ailleurs, moi aussi, j'avais les miens, j'écoutais de la musique. Bref, on se met dans ces bulles individuelles technologiques. Est-ce que nos enfants, justement, quand ils se déplaceront en 2050, est-ce que, justement, tous ces outils-là seront rangés pour d'autres moments et que lorsque l'on est dans la rue, on est prêt à accueillir la rencontre, l'autre ?
Alors, il y a j'ai un truc à répondre. Déjà, c'est que là, on est dans notre bulle, comme tu dis, avec les écouteurs et puis notre téléphone. Mais en fait, on est en relation aussi. C'est-à-dire qu'on est en relation avec nos potes. Moi, souvent, j'envoie des textos, des machins. Donc juste, on n'est pas, pas en train de sympathiser avec tout le métro, mais par contre, on est quand même en lien avec l'autre, avec ceux qu'on connaît. Et nos enfants, c'est pour ça que je pense que ce qui est hyper important, c'est de les éduquer à la joie, à l'ouverture, à la confiance en eux, à la liberté de penser, d'être. Parce que c'est de ça que j'ai manqué en fait. Mais je suis pas toute seule. C'est pas une critique envers mes parents, pas du tout. C'est juste que dans les années 80, les familles n'étaient pas du tout dans l'écoute des émotions de l'enfant. C'était juste pas à la mode en fait. Quelque part. Il y avait quelques avant-gardistes, bien sûr, tout comme toujours. Mais en tout cas, la grosse tendance qu'on vit actuellement, où tout le monde est en train de s'occuper des émotions, on va chez le pédopsie, on met dans des écoles alternatives, on cherche. Et toute cette vague, elle est due à ça, quoi.
Et
donc, en 2050, justement, c'était ta question, pardon. Je pense que comme nos enfants seront des personnes, j'espère, plus guéris que nous, parce qu'ils auront une enfance où on est à l'écoute, où on leur permet d'être eux-mêmes et de développer leur potentiel, si chaque personne vivait pour ses rêves au lieu de travailler pour les rêves de quelqu'un d'autre, on serait plus aligné, quoi. On serait plus ouvert, on serait plus détendu, on aurait moins peur. Parce qu'il y a beaucoup de peur dans l'époque actuelle. On a peur de l'autre, on a peur de... Alors, on a soit peur parce que la personne est impressionnante, ou soit peur de déranger, soit peur de mal faire. Bref, on a peur, quoi. Et donc, cette peur fait qu'on est coupé les uns des autres. Et donc, quand on n'est plus dans la peur et qu'on décide d'être dans l'ouverture, mais on ne peut pas décider, tu sais, comme ça, je dis on décide, mais on ne peut pas décider parce qu'on est avec tout notre truc, notre poids, machin, là.
Donc un monde plus apaisé. J'aime bien cette idée de dire réussir à laisser de côté les peurs, quelles qu'elles soient, dans leur diversité. C'est intéressant la façon dont tu as pu les décrire, justement.
Juste, je voulais rajouter que ça, alors c'est sans tenir compte, en tout cas sans parler du contexte climatique. Mm-hmm. C'est-à-dire que je pense qu'en 2050, on sera quand même... on a de forts risques d'être quand même... qu'il y ait beaucoup de réfugiés climatiques, qu'on soit dans des situations... où on est obligé d'être dans le rapport à l'autre. Et je pense qu'on y sera obligé, parce qu'à un moment, l'univers aura un sursaut de faire en sorte qu'on soit obligé, pour la survie de notre espèce, d'être dans ce retour aux relations fortes, on y va ensemble, on va réussir, et que finalement, notre petit monde, là, bien confortable... je dis ça parce que j'ai la chance d'être dans la partie riche des gens et j'ai très conscience que c'est pas du tout ce que vivent la plupart des gens. Mais en tout cas, il y aura le climat aura fait son œuvre et malheureusement, quoi qu'on fasse, les accords de Paris ou non, s'il n'y a pas une vraie un vrai réveil, le rapport à l'autre sera de toute façon contraint par par l'extérieur.
C'est intéressant que tu abordes cette question de... Alors, je ne sais pas si le terme de classe sociale a encore beaucoup de sens aujourd'hui, mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a quand même une grande part de la population en France et ailleurs qui est moins dans ce... dans la technologie au quotidien parce que ça a un coût, etc. Et on sait aussi qu'il y a des solidarités sociales qui sont fortes dans des sociétés qui sont moins connectées. Et peut-être que là aussi... on peut espérer que d'ici 2050, des sociétés entières prennent d'autres chemins pour garder justement ce savoir-être de la solidarité, du lien social intergénérationnel. Je pense que ça peut être aux sociétés, à des sociétés sur le continent africain, ailleurs aussi. C'est vrai que notre modèle n'est pas forcément le modèle.
Non, c'est vrai. En plus, on est en plus à Paris. C'est une ville qui n'est pas du tout propice aux solidarités du voisin et autres. Alors que je sais que hors de Paris, c'est complètement le cas dans des villes plus petites. Oui, c'est vrai. En fait, nos parents, il n'y a pas si longtemps, vivaient... nous, on vient d'Afrique du Nord. Je sais que nos parents vivaient avec leurs grands-parents, par exemple, à la maison. Ça, c'était courant, quoi, que les générations soient là. Par exemple, l'allaitement, par exemple, c'était un truc où le portage, tout ce à quoi on revient aujourd'hui, où on est un peu paumé quand on est une jeune maman, on ne sait pas, ou un jeune papa d'ailleurs. On ne sait pas trop comment faire, mais les gens, par exemple, est-ce que tu as déjà vu une Africaine mal porter son bébé? Parce qu'en fait, ils ont des modèles, ils vivent ensemble et tout le monde porte, tout le monde a cette pratique, tout le monde allaite, donc tu allaites bien, tu n'as pas des trucs de je ne sais pas comment mettre mon bébé et tout, ça n'existe pas, ça existe qu'ici où on est chacun dans notre... isolés, les parents sont seuls et donc on sait ni comment porter. Je vois plein de parents qui ont des super porte-bébés, mais le bébé est mis n'importe comment ou qui ne savent pas allaiter. Et moi, j'ai dû être aidée pour tout ça, quoi, parce que je ne savais pas faire. Ouais.
On pourrait chercher des tutos sur YouTube.
Mais c'est ça, moi j'ai vu des tutos pour savoir comment porter mon bébé. J'agitais avec mon écharpe, comment veux-tu mettre ça tout seul, quoi. Si t'as pas de modèle autour de moi, personne n'a allaité ni porté. Je pense pas que ce soit des niveaux de connexion différentes. Je pense que tout le monde est connecté aujourd'hui. Mais en revanche, c'est plus des niveaux d'éducation qui font que t'as vite fait de t'engouffrer dans les pièges de ce système-là. Si t'as pas un peu de recul, si t'as pas un peu d'entourage aussi pour te dire c'est plus ça en fait qui est dangereux. C'est que moi, en plus je travaille sur les réseaux sociaux, j'ai 36 ans donc je suis plus jeune et je peux me dire ça c'est bien mais la vraie vie c'est ailleurs, alors qu'il y a plein de gens qui c'est leur seul lien social, donc ils sont à fond dedans et puis ils n'ont pas le recul, ils peuvent pas prendre de hauteur quoi, par rapport à ça.
D'accord. Alors pour finir notre conversation, Audrey, j'aimerais que tu formules un vœu pour 2050.
Mon vœu, alors ça va faire un peu Miss France, hein, mais tu sais, c'est vraiment qu'on soit En fait, c'est vraiment d'être dans Avatar, mon vœu. Ouais. C'est-à-dire qu'on soit alors complètement connectés les uns aux autres. Alors, on peut très bien être dans Avatar, mais habillé, tu vois.
Oui. Avec,
et pas bleu. Et pas bleu. On va être dans une ville, mais une ville qui serait... dont tous les éléments de cette ville seraient au service de notre planète. Et puis nous, on serait hyper dans l'empathie, en fait. Mm-hmm. C'est ça. Hein, que, c'est-à-dire que... Il y a des gens qui sont plus empathiques que d'autres. Moi, je sais que c'est carrément problématique dans ma vie. C'est-à-dire que des fois, je ressens tellement fort que je ne peux pas aider en fait, les gens parce que je suis trop affectée par leurs trucs. Quoi. Donc, je pense qu'on sera dans une empathie constructive et qu'on sera ouvert à l'autre. On le verra marcher dans la rue et on pourra... plus facilement se mettre en lien. Et ça, je compte vraiment sur nous pour éduquer ceux qui auront 30-40 ans en 2050 et qui soient des êtres libres, qui ont confiance en eux et qui ont des rêves et de la joie, en fait. Voilà.
Ça me va très bien. Je crois que j'aurais pu formuler ce vœu-là, Audrey. Merci à toi. Merci
vraiment pour l'écoute et cette parenthèse très sympa.
Bon, bah merci à toi. Cet épisode de Hashtag 2050, le podcast, s'achève déjà. On se retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle conversation. Et d'ici là, soyons toujours curieux.